Chapitre 16. Le moulin et l'usine. Le vaillant ruisseau ne se borne pas à fertiliser nos terres. Il sait aussi travailler d'une autre façon quand il n'est pas employé en entier à l'irrigation des champs. Il nous aide dans notre besogne industrielle. Tandis que ses alluvions et ses eaux se transforment chaque année en froment par la merveilleuse chimie du sol, son courant sert à réduire le grain en farine. De même qu'il pourrait aussi pétrir cette farine en pain s'il nous plaisait de lui confier ce travail. Pourvu que sa masse liquide y suffise, le ruisseau substitue sa force à celle des bras humains pour accomplir tout ce que faisaient autrefois les esclaves de guerre ou les femmes asservies à leur brutal mari. Il moule le blé, brise le minerai, triture la chaux et le mortier, prépare le chanvre, tisse les étoffes. Aussi l'humble moulin, fut-il même rongé de lichens et d'algues, m'inspire-t-il une sorte de vénération. Grâce à lui, des millions d'êtres humains ne sont plus traités en bêtes de somme. Ils ont pu relever la tête et gagner en dignité en même temps qu'en bonheur. Quel souvenir charmant nous a laissé ce moulin de notre petite bourgade. Il était à demi caché, peut-être l'est-il encore, dans un nid de grands arbres. Vergne, tremble, saule, peuplier. On entendait de loin son continuel tic-tac, mais sans voir la maison à travers le fouillis de verdure. En hiver seulement, les murailles lézardées apparaissaient entre les branches dépourvues de feuilles. Mais dans toute autre saison, il fallait, avant d'apercevoir le moulin, pénétrer jusque dans la cour, déranger le troupeau des oies sifflantes et réveiller dans sa niche le gros chien de garde, toujours grognant. Cependant, protégé par l'enfant de la maison, notre camarade d'école et de jeu, nous osions nous approcher du cerbère, nous osions même avancer la main tout près de la terrible gueule et caresser doucement l'énorme tête. Le monstre daignait enfin se radoucir et remuait la queue avec bienveillance en signe d'hospitalité. Notre site de prédilection était une petite île dans laquelle nous pouvions entrer, soit en passant par le moulin construit transversalement au-dessus d'un bras du ruisseau, soit en nous glissant le long d'une étroite corniche ménagée en forme de trottoir à l'extérieur de la maison. C'est là que s'ajustaient les pelles et que le garçon meunier allait tous les matins régler la marche de l'eau. Il va sans dire que c'était là notre chemin préféré. En quelques bonds, nous étions dans notre îlot sous l'ombre d'un grand chêne, à l'écorce usée par nos fréquentes escalades. De là, le moulin, les arbres, le ruisseau, les cascades, les vieux murs se montraient sous leur aspect le plus charmant. Près de nous, sur le grand bras du ruisseau, une digue, formée de madriers épais, barrait le courant. Une cascade s'épanchait par-dessus l'obstacle, et des rapides écumeux venaient se heurter contre les piles d'un pont aux lézardes fleuries. De l'autre côté, la vieille masure du moulin emplissait tout l'espace, des arbres de la rive à ceux de l'îlot. Du fond d'une sombre cascade ménagée au bas des murailles, l'eau battue s'échappait comme d'une énorme gueule, et dans la noire profondeur de l'ouverture béante, nous distinguions vaguement des pilotis moussus, des roues à demi disloquées, s'agitant gauchement comme l'aile brisée d'un oiseau, des palettes plongeantes déversant chacune sa cascatelle. Autour de l'arcade, un lierre épais recouvrait les murs, et grimpant jusqu'au toit, enlaçait les poutrelles de ses cordages noueux et frémissait en touffes joyeuses au-dessus des tuiles. Et dans l'intérieur de la maison, combien tout nous paraissait étrange, depuis l'âne philosophe, ployant sous le fardeau des sacs que l'on déchargeait près de la meule, jusqu'au meunier lui-même à la longue blouse enfarinée. Autour de nous, pas un seul objet qui ne s'agitât convulsivement ou ne vibrât sous la pression de la cascade invisible qui grondait à nos pieds, et dont nous discernions çà et là par les interstices la fuyante écume. Les murs, le plancher, le plafond, tremblait incessamment des puissantes secousses de la force cachée. Pour que notre regard échappât un instant à la vue de ce frémissement universel, il nous fallait fixer les yeux avec effort sur l'azur et les nuées blanchâtres de l'espace qui se montraient à travers une lucarne. Dans un coin sombre du moulin, l'arbre moteur tournait, tournait sans relâche, comme le génie du lieu. Des roues dentées, des courroies tendues d'un bout de la salle à l'autre, transmettaient le mouvement aux meules grinçantes, aux trémies oscillantes avec un bruit sec, à tous ces engins de bois ou de métal qui chantaient, geignaient ou hurlaient dans un concert bizarre. La farine qui jaillissait comme une fumée des grains broyés flottait dans l'air de la salle et saupoudrait tous les objets de sa fine poussière. Les toiles d'araignées suspendues aux poutres du plafond s'étaient en partie rompues sous le poids qui les chargeait et se balançaient comme de blancs cordages. Les empreintes de nos pas se dessinaient en noir sur le plancher. Dans l'immense brouhaha des voix qui s'échappaient des engrenages, des meules, des boiseries et des murailles elles-mêmes, à peine pouvais-je entendre ma propre voix, et d'ailleurs je n'osais parler, me demandant si l'habitant de cet étrange lieu n'était pas un sorcier. Son fils, mon camarade d'école, me paraissait moins redoutable, et même à l'occasion je ne craignais pas de me colleter avec lui. Pourtant je ne pouvais m'empêcher de voir aussi en sa petite personne un être mystérieux, commandant aux forces de la nature. Il connaissait tous les secrets du fond de l'eau. Il pouvait nous dire le nom des herbes et des poissons, discerner dans le sable ou la vase le mouvement imperceptible à nos regards, révéler des drames intimes, visibles à lui seul. Dans notre pensée, c'était un véritable amphibie, et il s'en défendait à peine. Il s'était promené sur le lit du ruisseau dans les endroits les plus profonds et mesurait de mémoire à 1 centimètre près les gouffres que nos perches n'étaient pas assez longues pour sonder. Il connaissait aussi sur tous les points la force du courant contre lequel il avait lutté à la nage ou à la rame. Plus d'une fois, il avait manqué d'être emporté par les roues et broyé sous les engrenages. Familiarisé avec le danger, il le bravait d'autant plus, comptant toujours sur l'effort de son bras ou sur une corde secourable lancée au dernier moment. Un de ses frères, moins heureux, avait trouvé la mort dans un gouffre où l'avait entraîné le remous. Effarés, nous regardions le trou sinistre. Le père, plein d'une horreur sacrée, en avait fait murer le fond. Le mystère qui, pour nous, entourait le vieux moulin, ne planait pas sur la grande usine, située beaucoup plus avant dans la plaine, à un endroit où le ruisseau a déjà reçu tous ses affluents. D'abord, l'usine est une énorme construction, qui, loin de se cacher sous les ombrages, se dresse au milieu d'un espace nu, et dont la puissante masse pourrait être presque comparée pour la hauteur aux coteaux environnants. À côté de l'édifice, une cheminée, pareille à un obélisque, s'élève à 10 mètres plus haut dans l'atmosphère et semble encore se prolonger vers le ciel par les noires volutes de fumée qui s'en échappent. Le jour, ces murs badigeonnés détachent l'usine sur le vert des prairies. Le soir, lorsque le soleil se couche, des centaines de vitres s'allument sur la façade, comme autant de regards flamboyants. La nuit, les lumières de l'intérieur rayonnent au dehors en faisceaux divergents et, comme la lueur d'un phare, brillent à 10 lieues de distance. À l'intérieur comme au dehors, l'usine ne présente que des angles droits et des lignes géométriques. Les grandes salles, pleines de la lumière qui entre à flot par les vastes fenêtres, ont néanmoins je ne sais quoi de terrible dans leur aspect. Des piliers de fer se dressant à distance égale soutiennent le plafond. Des machines de fer agitent d'un mouvement régulier leurs roues, leurs bielles, leurs bras coudés. Des dents de fer et d'acier saisissent la matière qu'on leur donne à diviser, à ronger, à broyer ou à pétrir de nouveau, et la rendent en pâte, en fil, en flocons ou en nuées à peine visibles, ainsi que le lui demande la volonté maîtresse. De tous ces engins de métal qui s'agitent et grondent comme des monstres féroces, l'homme a fait ses esclaves. C'est lui qui les déchaîne après leur avoir donné la pâture. Mais tout maître qu'il est, il n'en doit pas moins trembler devant cette force brutale qu'il a domptée. Qu'il oublie seulement un instant de mettre son propre travail en harmonie parfaite avec celui de la formidable machine, que sous l'impression d'un sentiment ou d'une pensée, il s'arrête dans ses va-et-vient rythmiques, et peut-être le puissant mécanique qui, lui, n'a ni regret ni espérance pour le ralentir ou l'accélérer, va le saisir et le lancer broyé contre la muraille. Peut-être va-t-il l'entraîner par un pan de son vêtement, l'attirer dans ses engrenages et le réduire en une bouillie sanglante. Les roues tournent d'un mouvement toujours égal, qu'il s'agisse d'écraser un homme ou de tordre un fil à peine visible. De loin, quand on se promène sur les coteaux, on entend le ronflement terrible de la machine qui fait vibrer autour d'elle le sol et l'atmosphère. Cette force disciplinée, et néanmoins redoutable, des roues et des bras de fer, n'est autre chose que la puissance transformée du ruisseau naguère indomptée. Cette eau qui jadis n'accomplissait d'autre travail que de renverser des berges et d'en créer de nouvelles, d'approfondir certaines parties de son lit et d'en élever d'autres, est devenue maintenant l'auxiliaire direct de l'homme pour tisser des étoffes ou pour broyer du grain. Guidé par l'ingénieur, le mouvement brutal de l'eau a pris la direction qu'on lui traçait. Il s'est distribué dans les pinces les plus fines, dans les pinceaux les plus ténus, aussi bien que dans les engrenages les plus puissants de l'énorme machine. Il brise et triture tout ce que l'on met sous le marteau-pilon et tire les barres de fer qui s'engagent sous le laminoir. Mais il sait aussi choisir et mêler les fils presque imperceptibles, marier les couleurs, velouter les étoffes comme d'un léger duvet, accomplir à la fois les travaux les plus divers, ceux que ne pouvait même rêver un Hercule et ceux qui défieraient les doigts habiles d'une arachnée. En donnant sa force à la machine, le ruisseau est devenu un gigantesque esclave remplaçant à lui seul ces milliers de prisonniers de guerre et de femmes asservies qui peuplaient les palais des rois. Toute la besogne de ces tristes animaux enchaînés, il sait la faire mieux qu'elle ne fut jamais faite, et que de choses en outre il peut accomplir. Bien utilisée, une cataracte comme celle du Niagara animerait un assez grand nombre de machines pour se charger du travail d'une nation. Presque incalculables sont les richesses dont l'usine a gratifié l'humanité. Et chaque année, ces richesses s'accroissent encore grâce à la force que l'on sait dégager des combustibles, grâce aussi à l'emploi plus savant et plus général de l'eau courante qui glisse sur le lit incliné des ruisseaux. Et pourtant, ces produits si nombreux, qui sortent des manufactures pour enrichir l'humanité tout entière et pour aller, d'échange en échange, initier les peuplades les plus lointaines à une civilisation supérieure, laissent encore bien souvent dans une misère sordide ceux qui les mettent en œuvre. Non loin de la puissante usine dont les monstres de fer ont tant coûté, non loin de la magnifique demeure seigneuriale qu'entoure de beaux arbres exotiques, importés à grands frais de l'Himalaya, du Japon, de la Californie, des maisonnettes en briques, noircies par la houille, s'alignent au milieu d'un espace jonché de débris sans nom et parsemé de flaques d'une eau fétide. Dans ces humbles demeures, moins hideuses il est vrai que les tanières de serfs dominées par le château du baron féodal, les familles sont rarement réunies autour de la même table. Tantôt le mari, tantôt la femme, ou les enfants en âge de travail, appelés par l'impitoyable cloche de la manufacture, doivent s'éloigner du foyer et se succéder au service des machines, travaillant elles-mêmes sans trêve ni repos, comme le courant du ruisseau qui les met en mouvement. Parfois la maison se trouve tout à fait vide, à moins qu'il ne reste dans un coin quelques nourrissons réclamant en vain sa mère par des vagissements plaintifs. Le pauvre enfantelet, enveloppé de langes humides, est encore tout chétif à cause du manque d'air et de soins. Tôt ou tard, il sera rongé de scrofules, à moins qu'une maladie quelconque, phtisie, variole ou choléra, ne l'emporte avec l'âge. Ainsi, tout n'est pas joie et bonheur sur les bords de ce ruisseau charmant, où la vie pourrait être si douce, où il semble naturel que tous s'aiment et jouissent de l'existence. Là aussi, la guerre sociale est en permanence. Là aussi, les hommes sont engagés dans la terrible mêlée de la concurrence vitale. De même que les monades ou les vibrions de la goutte d'eau cherchent à s'arracher la proie les uns aux autres, de même sur la berge, chaque plante cherche à prendre à sa voisine sa part de lumière et d'humidité. Dans le ruisseau, le brochet s'élance sur les pinoches et celle-ci happe le goujon. Tout animal est, pour quelque autre animal au guet, un plat déjà servi. Parmi les hommes, la lutte n'a plus ce caractère de tranquille férocité. Grâce à la culture du sol et à la mise en œuvre de ses produits, nous n'en sommes plus à nous entremanger. Mais nous nous regardons encore les uns les autres d'un œil oblique, et chacun de nous suit avec envie le morceau de pain que son frère porte à sa bouche. Les spectres de la misère et de la faim se dressent derrière nous, et pour éviter, nous et nos familles, d'être saisis par leur effroyable étreinte, nous courons tous après la fortune, dût-elle même être acquise d'une manière directe ou indirecte, au détriment du prochain. Sans doute, nous en sommes attristés, mais saisis par un engrenage comme le marteau-pilon qui se soulève et qui broie, nous aussi, nous écrasons sans le vouloir. Cette lutte féroce pour l'existence entre hommes qui devraient s'aimer n'aura-t-elle donc pas de fin? Serons-nous toujours ennemis, même en travaillant côte à côte dans l'usine commune? Parmi tous ceux qui, de leurs mains ou de leur tête, sont associés de fait à la même œuvre, les uns de plus en plus enrichis s'arrogeront-ils à jamais le droit de mépriser les autres? Et ceux-ci, de leur côté, condamnés à la misère, ne cesseront-ils de rendre haine pour mépris et fureur pour oppression? Non, il n'en sera pas toujours ainsi. Dans son amour de justice, l'humanité qui change incessamment a déjà commencé son évolution vers un nouvel ordre de choses. En étudiant avec calme la marche de l'histoire, nous voyons l'idéal de chaque siècle devenir peu à peu la réalité du siècle suivant. Nous voyons le rêve de l'utopiste prendre forme précise pour se faire la nécessité sociale et la volonté de tous. Déjà, par la pensée, nous pouvons contempler l'usine et la campagne environnante, telle que l'avenir nous les aura changées. Le parc s'est agrandi, il comprend maintenant la plaine entière, des colonnades s'élèvent au milieu de la verdure, des jets d'eau s'élancent au-dessus des massifs de fleurs, de joyeux enfants courent dans les allées. La manufacture est toujours là, plus que jamais elle est devenue un grand laboratoire de richesse. Mais ses trésors ne se divisent plus en deux parts, dont l'une est attribuée à un seul et dont l'autre, celle des ouvriers, n'est qu'une pitance de misère. Ils appartiennent désormais à tous les travailleurs associés. Grâce à la science qui leur fait mieux utiliser la puissance du courant et les autres forces de la nature, les ouvriers ne sont plus les esclaves haletants de la machine de fer. Après le travail de la journée, ils ont aussi le repos et les fêtes, les joies de la famille, les leçons de l'amphithéâtre, les émotions de la scène. Ils sont égaux et libres. Ils sont leurs propres maîtres. Ils se regardent tous en face. Aucun d'eux n'a plus sur le front la flétrissure qu'imprime l'esclavage. Tel est le tableau que nous pouvons contempler d'avance en nous promenant le soir près du ruisseau Chéri, quand le soleil couchant borde d'un cercle d'or les volutes de vapeur échappées de l'usine. Ce n'est encore là qu'un mirage, mais si la justice n'est pas un vain mot, ce mirage nous montre déjà la cité lointaine, à demi cachée, derrière l'horizon.